Ordinarenik nik ez dituzkaz eginen, zen eta soziologiako itzak ez peita eza, netako eta ez dituzka untxe maiten guano, parka aiande. Mena, bon, ordin frances eginen dit eta eskerrik anis beste aiandi, utzulpena eginen behitu. Bon. Alors, donc j'ai expliqué pourquoi je ne ferai pas mon... ma prise de parole en basque, hein, puisque je ne suis pas en mesure de tous les mots que je vais utiliser et que j'ai utilisés pour ma recherche, je les ai étudiés en français, donc effectivement pour moi la traduction en basque aurait été très laborieuse et très difficile. Bon, d'abord, je vais vous présenter le cadre de ma recherche. Je crois que c'est important de la poser, que vous soyez au courant du contexte dans lequel j'ai travaillé. C'est une reprise tardive d'études, hein, puisque je ne suis pas toute jeune, pour des raisons diverses, hein, des raisons personnelles. Je voulais avoir un Master 2, qui est le niveau exigé maintenant pour tous les jeunes professeurs d'école, et c'est un niveau universitaire assez courant et que je n'avais pas, donc c'était mon souhait de l'avoir. Donc c'était un projet personnel. Et... voilà, cette étude-là, je l'ai faite avec l'Université de Bourgogne, de Dijon, qui a un secteur de sciences de l'éducation qui est assez bien connu, puisque de nombreux professeurs assez réputés là, sur le territoire français participent aux travaux. Là, et l'objet de leur recherche, c'est essentiellement sur les choix d'école, les inégalités scolaires, la discrimination à l'école, la ségrégation scolaire. Voilà en gros sur quoi travaille le laboratoire de recherche dans lequel j'étais. Alors le choix d'école, on pourrait se dire, à Mouléon, c'est un choix qui n'est pas... On n'est pas en Seine-Saint-Denis, on n'est pas dans les régions les plus dures de la région bordelaise ou de la région lyonnaise ou à Marseille, dont on parle en ce moment. Et pourtant, je crois que même à Mouléon, le choix d'école, c'est une question qui peut être vive sur le plan sociologique, quoi. Parce que peut-être... Un peu partout, hein, ailleurs peut-être encore plus fort qu'ici, les parents, lorsqu'ils choisissent leur école, ils la choisissent parce qu'ils veulent fuir certains contextes, fuir tout simplement des écoles où sont concentrés des élèves de milieux sociaux très défavorisés. On veut fuir une école où, ben, très simplement, les enfants sont un peu plus basanés qu'ailleurs, hein, on va dire les choses simplement. On veut aussi aller dans une école où on partage les mêmes valeurs. C'est le cas des familles qui choisissent une école confessionnelle ou catholique pour leur enfant. Ils veulent être avec des gens qui ont les mêmes valeurs, les mêmes principes éducatifs, et en ajoutant évidemment la valeur religion et catholique. Voilà, donc tout ça fait que dans des contextes de certaines villes, on a une ségrégation scolaire qui est de fait participe des inégalités et creuse encore plus les écarts entre les gens et les individus qui sont effectivement après incapables de se parler, de communiquer, de faire ensemble. Et c'est de vrais problèmes dans de nombreux secteurs. Alors, moi, la question, je l'étudie à la fac de cette manière-là. Et je me suis dit, dans mon pays à moi, la question du choix d'école, elle se pose effectivement un peu avec l'école catholique, mais elle se pose aussi, vous savez bien, entre les cachetolas, l'école publique, l'école catholique, l'offre qu'on a sur le terrain. Et le contexte que j'étudiais et que j'observais, celui qu'a décrit, donc, ce qu'ont décrit Michel et Jojo, c'est un contexte qui a énormément changé, c'est en 40 ans. Et ce contexte-là, c'est celui qui m'a intéressée et que j'ai voulu étudier. Alors d'abord, un petit... c'est pas une mise en garde, mais très modestement, je suis plutôt habituée à un public d'enfants de 7-8 ans. Alors aujourd'hui, ça change. Alors vous resterez sûrement beaucoup mieux assis, et même si ça ne vous intéressera pas, vous aurez au moins l'attitude de gens qui sont intéressés. Donc je vous en remercie. Et puis ensuite, j'ai vu dans les journaux qu'on disait que j'étais une chercheuse. Alors... la chercheuse, elle est à ma droite parce qu'elle est effectivement à l'université. Et moi, je suis une petite étudiante de Master 2. Donc, les choses étant remises à leur place, on va pouvoir commencer. Voilà. Bon. Alors, en présentant le cadre de mon travail, je crois qu'il faut aussi que je présente ma posture et mon cadre personnel. quand on fait un travail de recherche scientifique, il faut essayer de voir où on est nous par rapport à ça. Si j'avais fait une étude sur le rugby, par exemple, j'aurais été complètement extérieure à l'objet de ma recherche. J'aurais dit, ça aurait été bien plus facile, j'aurais tout appris en regardant d'un œil curieux. Mais là, je suis, comme enfin, Pierre Bourdieu a dit, je suis à la fois prise et comprise dans l'objet de ma recherche. Ce qui fait que je peux ne pas être objective, neutre, pas scientifique. Et pourquoi ? Parce que moi, mon histoire, elle est un petit peu la vôtre. Je suis dans une famille dans laquelle la langue basque a été longtemps déconsidérée, hein. Parce que, et je ne peux pas leur en vouloir, je crois que c'est une situation des années 60-70. Hein. L'Oréal s'est certainement particulièrement étudié ça. Moi, pour ma recherche, j'ai dû essayer de comprendre aussi pourquoi dans ces années-là, c'était difficile. Hein. Je ne vous ferai pas le résumé de tout ça. Bon, donc, ma famille, par souci que je réussisse à l'école et par souci d'intégration, a vraiment voulu que je parle en français, et que le basque était une langue longtemps déconsidérée, la langue des ruraux, la langue des gens qui réussissaient pas, la langue, voilà. Donc, on l'a pas appris, quoi. On l'a pas appris, et comme plein d'autres gens. J'ai voulu le réapprendre ensuite à l'adolescence, un petit peu de manière imparfaite, puisque je suis pas en mesure de faire ce travail-là ce matin en basque devant vous. Mais bon, donc ça, c'était... Longtemps, ça a été chargé d'émotions pour moi, toute cette situation-là. Ensuite, je suis devenue instite. Donc, instite, dans les années 85, c'est une période où l'Ikastola, dans les effectifs, a connu aussi un léger creux dans la vague des effectifs, parce que c'était une situation politique difficile. Si vous vous souvenez, c'était le GAL, c'était les années GAL, c'était les années Iparétarac, c'était des années où la situation était conflictuelle sur le territoire, douloureuse, et... Moi-même et mon mari, qui était enseignant dans un petit village de Barcus, un petit quartier, que faire de nos enfants ? Le cœur était de vouloir les mettre à l'Ikastola. En même temps, le village, le petit quartier était là. Donc voilà. Bon, bref, les enfants n'ont pas été à l'Ikastola. Maintenant, ils sont. On ne peut pas dire qu'ils soient parfaitement bilingues. Donc sur ce plan-là, bon, ils sont. Par ailleurs, ils vont bien, mais bon. Mais bon. Voilà, ça, c'est pas complètement abouti, ça a été quelque chose de très douloureux. Donc voilà, quelques années plus tard, me revoilà après toute cette douleur passée, ces choses, ces deuils un peu faits, en tout cas en train d'être digérés, et puis étudier les choix scolaires, étudier la situation. Et puis l'Ikastola, voilà, ça commençait à m'intéresser, parce qu'on était dans un contexte, comme ils l'ont décrit, tout à fait différent. Alors, je propose mon sujet de recherche, qui est motivation. La motivation, c'est en quelque sorte... le désir, quelque chose de très fort en soi qui fait qu'on pose des choix et qu'on est quelque part et pas ailleurs, c'est ça. Et les profils, les parents d'élèves, quand je dis les profils, c'est les profils sociologiques. Alors je ne vais pas vous dire à certains d'entre vous qui vous êtes, quel est votre métier, quel est votre niveau de revenu ou vos choix. Bon, mais en quelque sorte, c'est quand même d'une manière globale, quels sont les profils sociologiques, les profils identitaires des gens qui sont là. Voilà. Alors le contexte, donc, c'est ce qu'ils ont décrit, ils l'ont décrit parfaitement, hein. C'est-à-dire qu'en 40 ans, des collectivités locales qui apportent leur soutien, je crois beaucoup plus qu'au début. Alors tout ça, c'est le résultat effectivement de parents qui ont lutté pendant des années pour arriver à cette situation qu'on a maintenant, qui n'est certes pas aboutie, mais voilà où on en est en ce moment. Donc effectivement, on a donc, des contextes locaux plus favorables, c'est-à-dire on arrive à trouver des... que je crois les Ikastola arrivent à trouver un local de manière... C'est quand même plus facile qu'il y a 40 ans. Hein. La lutte n'est pas la même. On a aussi la preuve au niveau politique local. Il y a eu la création de l'Office public de la langue basque qui donne un cadre de référence à la fois à tous les secteurs hein, bilingues du territoire, hein, mais aussi à l'Ikastola. Et donc le contrat avec l'OPLB est donc de bien de produire des locuteurs basques à la fin du CM2. Et là, je crois que c'est l'OPLB impulse à la fois, je pense, une dynamique et aussi un cadre, un soutien qui n'est pas négligeable. Donc tout ça, c'est quand même fait que maintenant, bon, c'est quand même moins difficile. Il y a aussi sur le plan national des politiques éducatives qui ont changé toujours, je pense, en réponse hein, à des négociations, un combat, hein, c'est évident. Donc... je crois l'enseignement des langues régionales qui trouve progressivement un peu plus sa place dans l'enseignement public et dans toutes les politiques éducatives. Il y a également, je crois, la situation du bilinguisme, qui, après avoir été vraiment aussi déconsidéré, hein, on pensait pendant longtemps que cette langue était, on appelait un bilinguisme soustractif, c'est-à-dire que pour beaucoup d'enfants, ça l'est encore pour certains enfants. Imagine un petit enfant marocain qui débarque à Mauléon, sa langue marocaine, si c'est sa langue maternelle, il la vit comme un handicap, parce qu'à l'école, elle n'est pas considérée. Donc du coup, c'est lui-même qui se dévalorise et qui se déconsidère. Et sa langue, elle est complètement enfouie au fond de lui. Et c'est ce qui a été longtemps le cas du basque, qui peut-être l'est encore dans certaines familles, hein, je ne sais pas, ou pour certains enfants. Mais en tout cas, maintenant, parler basque, ce n'est plus considéré comme cette forme de bilinguisme soustractif, mais bien comme un bilinguisme additif, c'est-à-dire un plus pour un enfant qui va maîtriser deux langues, et puis après trois langues, et on sait que sur le plan cognitif, sur le plan de son développement, ce n'est que mieux. Et ça, je crois que cette situation qui est déclinée et décrite par des chercheurs en linguistique, petit à petit, elle rentre dans l'opinion publique, et que, en fait, en somme, les parents, les futurs parents, ils sont baignés dans ces connaissances-là, et que les choix qu'ils font quand ils font un choix d'école, ils se tournent beaucoup plus facilement vers une école qui va proposer cet enseignement de langue. Parce qu'ils savent que ça, au contraire, loin d'handicaper leur enfant, ça va être un plus pour cet enfant. Il y a des programmes dans les programmes nationaux qui commencent à être clarifié sur les langues régionales, avec des compétences, des acquisitions qui sont attendues. Et ça, d'une certaine manière, c'est aussi, de la part de l'État, une façon de, on va dire, d'institutionnaliser, en tout cas de rendre officiel un enseignement et de lui donner de la valeur. Et puis, d'autre part, il y a, alors ça, c'est un parent d'élève de l'Icachtola avec qui j'ai fait un entretien, qui m'a dit ça de manière très jolie. Elle me disait, mais nous, on a été des enfants de test. Elle a 35 ans. Elle a dit, nous, nos parents, c'était des barjots qui avaient fait ce choix-là et qui étaient, hop, qui ont foncé dans cette idée-là. Autour de nous, on nous considérait un peu comme des illuminés, mais on est là et on a prouvé qu'on a eu des examens, qu'on a un parcours professionnel qui est identique aux autres. On a, donc, en quelque sorte, on a eu une réussite scolaire, même si on était à l'Icachtola, entre guillemets, voilà. Donc ces enfants-là, ils ont été des enfants de test qui, en quelque sorte, ont montré et ont prouvé aux autres, à d'autres générations, que, ben voilà, hein, c'était un parcours scolaire qui était sur le plan de la réussite scolaire comme les autres. Des résultats positifs au baccalauréat. D'ailleurs, Pascal Indo me disait, on n'a même plus besoin de demander à la presse qu'il nous fasse un état de nos résultats au bac. Autrefois, où il y a 30 ans, les articles qui parlaient de nous étaient toujours des articles assez polémiques et difficiles. Maintenant, on a une page entière sur nos résultats au bac sans qu'on demande rien. Voilà. Donc, en fait, tout ça, c'est donc un contexte, on voit qu'il change et qu'il devient plus, on va dire, certainement plus facile, on peut le dire comme ça. Et une école présente sur le territoire. Comment présente ? Alors ça, je reciterai pas Pierre Bourdieu, mais Pascal Indo, qui est une autre de mes rencontres, là. Pascal, il dit très simplement, je trouve ça très joli, il dit « La culture, c'est le dégât collatéral des Icachtola. » Alors, cette manière de dire, elle est très vraie. C'est-à-dire, il dit qu'autour de la dynamique de l'Icachtola, pour se financer, donc à des fins très matérielles, pour financer, il a fallu créer toute une dynamique festive, donc que vous connaissez bien, hein, les talos, les cantalis, des spectacles et tout ça, qui ont fait que les gens sont devenus certainement plus créatifs, hein, et c'est dans un environnement stimulant. Et cet environnement, il a fait il a fait des tâches, quoi, des émules, et puis petit à petit autour, ça s'est répandu et une forme d'ambiance qui s'est créée. Et puis donc je pense que le dégât collatéral, c'est que pour avoir de l'argent, il faut faire des fêtes. Pour faire des fêtes, il y a des gens qui inventent. Ces gens qui inventent, autour d'eux, ils attirent d'autres personnes qui participent à ces spectacles, qui, en tant qu'acteurs, en tant que spectateurs, mais qui, du coup, créent une certaine familiarité avec les Cachetola. Et ensuite, quand ils deviennent parents, mais le projet de mettre leur enfant à l'école, il va presque de soi. Voilà. Donc, voilà un peu le contexte. Et de fait, des effectifs en os, hein, ça vous le savez, hein, pratiquement 6% d'augmentation par an. Ces 10 dernières années, c'est carrément assez spectaculaire. Je crois dans tous les secteurs géographiques, hein, sur la côte basque aussi. Et donc, avec augmentation des effectifs, il y a un public qui se diversifie. C'est-à-dire qu'on n'a plus cette poignée de parents militants du départ, des 40 premières années, mais on a des gens qui sont ensemble dans une école et qui n'ont pas forcément, du coup, tout à fait le même projet et tout à fait les mêmes valeurs. Et moi, c'est ça qui m'intéressait. Voilà. Alors, les parents d'aujourd'hui... Alors, ça, ce sont, en gros, mes idées. Donc, qui sont les parents d'aujourd'hui? Dans les idées que j'avais, dans toutes les opinions, hein, on les pose toutes, est-ce que c'est maintenant devenu une école à la mode? Est-ce qu'il y a des parents qui y sont? Parce que voilà, ça fait bien et c'est bien d'être là. Alors, peut-être vous allez sourire avec des choses que je vais dire, parce que ça va vous dire, tiens, celui-là, ouais, tout à fait, c'est sûr qu'il est là pour ça. Bon, alors ça, je vous laisse à l'intérieur de votre tête. Réfléchissez, ne le dites pas tout haut, ce serait pas bon. Bon, voilà, ça, c'est une hypothèse. Une autre hypothèse, c'est qu'il y a des gens qui sont à l'Icachetola, qui sont comme dans les autres écoles. Des gens qui sont des stratèges. Des gens, ils sont là parce qu'ils ont un projet pour leur enfant, un projet de réussite. Des enfants, des gens qui vont dire, maintenant le basque sur la place publique, il est relativement reconnu. Professionnellement, ça peut même conduire à obtenir un poste si on est à côté d'un autre qui ne le parle pas, ce qui est paradoxal quand on voit la situation il y a 40 ans. Mais on est peut-être sur une situation qui change. Donc, mon enfant, si je le mets là, je participe de sa réussite professionnelle plus tard. Donc oui, je fais ce choix-là. C'est ça, être un stratège. C'est choisir en fonction de ça. Ou bien, est-ce qu'on a ce dont je vous parlais au début, ce désir d'entre-soi? Alors, on n'est pas là parce qu'on va avoir un enseignement religieux, ou pas du tout. Mais on est là parce que, ben, on sera dans une école, on sera entre nous, entre basques, ou entre amis, ou avec les copains avec qui on va au Cantal, ou avec qui on va au bal. Ouais, de cet ordre-là. Bon. Alors, toutes ces questions-là, et la question fondamentale qui m'intéressait aussi, est-ce qu'on a toujours ce public de départ et dans quelle proportion? C'est-à-dire des gens qui sont des gens très engagés pour leur territoire, des gens qui sont des militants, hein, les Abertzalés, en gros, le profil Abertzalé du début, qui a créé l'école et qui a lutté pendant, on va dire, presque 20 ans, en donnant pratiquement toute leur vie pour ce projet-là. Est-ce qu'on a toujours ces gens-là, ou est-ce qu'on est sur un public qui vraiment, vraiment change? Et on pouvait supposer aussi, et ça c'était mon hypothèse, que le bilinguisme, et le bilinguisme uniquement sur le plan intellectuel, c'est-à-dire le développement de l'enfant, ce soit l'argument principal, et que dans ce cas-là, pour certaines personnes, français, basque, anglais ou chinois, ce serait pareil. Mais on est là parce que c'est du bilinguisme. Est-ce qu'il y a des gens qui sont là pour ça? Voilà, en gros, les questions de départ qui m'ont intéressée. Alors, maintenant, je vais vous présenter, en gros, tout... Lauréat, je pense que quand on étudie comme ça, on est obligé, pour mettre un peu à l'écart ses émotions et ses opinions, de lire beaucoup. Alors, de lire beaucoup dans des auteurs dans différents domaines. Donc, j'ai lu un petit peu des domaines différents. Et ce que je vous montre là... Alors, je commence par Echkualdoun parce que c'est pas rien. Quand on dit ce mot-là, vous le savez mieux que moi, c'est le lien très fort de l'identité de la langue. Il n'y a pas un mot plus fort que ça pour le dire. Il est là. Et donc, cette identité qui va... je voulais vraiment savoir qu'est-ce qu'elle avait comme place dans ce choix d'école. Alors, c'est pour ça que le triangle que vous voyez là, en haut, j'ai mis l'identité. Donc, l'identité, elle se définit comme... Alors, je crois qu'elle le dirait mieux que moi parce qu'elle est professeure d'anthropologie, mais par rapport à la culture, la culture, on parle plutôt de pratique culturelle. L'identité, c'est une affirmation de ce qu'on est. C'est-à-dire que quand je pose une identité, je dis qui je suis. Donc, quand je fais un choix, que j'affirme mon identité, je dis qui je suis, en quelque sorte. Et ça, C'est un concept un peu complexe, mais bon. Et on parle aussi souvent d'identité individuelle et collective. C'est-à-dire, je suis là, moi, en tant qu'individu, j'ai fait ce choix-là, mais en même temps, je me raccroche à un groupe et je fais un choix de groupe parce que je me reconnais dans ce groupe-là. On a les mêmes goûts, par exemple, ou on participe aux mêmes choses. Ou, voilà, tout, et là, on fait partie du groupe. Mais après, à l'intérieur de ce groupe, c'est-à-dire, si je vous reprends le groupe des parents d'élèves, on va essayer quand même, à l'intérieur de ce groupe, d'affirmer son identité individuelle et personnelle. C'est-à-dire, dans ce groupe, je suis quand même quelqu'un. Voilà. Alors, de l'identité, on peut parler de l'identité basque, qui est liée à la langue, à le fait d'appartenir à un territoire, le fait d'avoir des idées, des opinions. Tout ça, c'est une identité basque, mais il y a d'autres identités. Il y a une identité professionnelle. Il va y avoir à l'Ikastola des patrons, des ouvriers peut-être, des cadres. Enfin, une identité professionnelle qui nous forme ou qui nous fonde. Et on a aussi une identité sexuelle et plein d'autres identités. Donc ça, c'est important. Il y a un autre chercheur qui s'appelle Dominique Volton. Alors lui, il s'occupe de sciences de la communication, il travaille au CNRS, et il dit des choses très intéressantes. Il dit que on assiste maintenant à la troisième mondialisation, c'est-à-dire que avec une forme d'homogénéité de la culture, on a l'impression qu'on a une culture McDo qui lamine tout le monde, qu'on va tous penser la même chose. Et il dit qu'après avoir la guerre mondiale, des conflits politiques, des conflits sociaux, on va assister maintenant à des conflits culturels. C'est-à-dire que, en réponse à ce laminage culturel, les gens ont un profond besoin d'exprimer leur identité. Et comme c'est de l'ordre presque du vital. C'est-à-dire, pour vivre, pour exister, il faut dire qui on est. Et il faut. Et donc, c'est pour ça qu'il pense que. Lui, il s'inquiète énormément de la disparition de toutes les langues, mais il pense aussi que certaines langues, quand elles utiliseront tous ces moyens modernes, par exemple, que sont Internet, les réseaux sociaux et tout ça, donc envahir tout ça avec les langues, qui sont des langues dominées encore, eh bien, il pense que c'est comme ça, en quelque sorte, qu'on va lutter contre cette mondialisation de la culture et que certaines cultures vont réussir paradoxalement à émerger dans cette mondialisation. Voilà. Et donc ça, je crois qu'il y a des gens qui sont là pour affirmer cette identité-là. Voilà. Alors évidemment, je pense qu'elle vous parlera aussi de culture dominante et dominée. Donc on est sur des rapports où évidemment les militants de base de l'Ikastola, ils ont eu le souhait et toujours le désir de faire de la culture dominante, de la remettre sur un autre plan, en tout cas de la faire dans leur univers, une culture dominante. Et ces rapports de force et d'enjeux là, qui se trouvent un peu partout sur le niveau culturel, ils se retrouvent donc sur notre territoire, bien sûr. Et donc, je crois qu'en 40 ans, ils ont réussi à transformer une identité qui était négative dans les années 50-60 en identité positive. C'est-à-dire que maintenant, on va dire globalement, on peut dans ce pays dire qu'on se revendique d'une identité basque sans... On n'en a pas honte, quoi. Voilà. Très simplement, c'est comme ça, c'est vécu autrement. Il y a des modifications qui ont été apportées. Voilà. Alors... Voilà. Donc là, je vous ai mis une référence de Pierre Bourdieu qui dit que... C'est un sociologue, hein, qui dit que la force mobilisatrice, tout ce qui touche à l'identité. Il a analysé, lui, je pense, sur le plan du Béarn, tout ce qui... Par rapport à l'identité, tout ce qui peut nous rendre très acteurs, mais en même temps de manière vive et qui donne une capacité à s'engager dans plusieurs domaines. Voilà, ça c'est des choses que je vous ai dit. Voilà. Alors les stratégies scolaires. Sur les stratégies scolaires, ce que je sais de toutes les lectures que j'ai faites, c'est que les gens qui choisissent une école... Ce sont rarement et jamais les gens qui sont les exclus de la société. Ce sont jamais des pauvres, des grands pauvres, on va dire. Ce sont jamais des gens qui sont certainement, je ne voudrais pas caricaturer dans les classes sociales les plus défavorisées, mais en tout cas, quand je dis les exclus, je crois que vous avez tous à peu près une image de ce que ça peut être. Les gens qui choisissent sont des gens qui sont en capacité de choisir. Sur le plan intellectuel, ils sont capables de dire pourquoi ils font ce choix-là et de l'argumenter. Donc déjà, ils ont la capacité du langage pour le faire. Ils ont aussi une capacité économique de choisir. Hein, même ils sont parce qu'un choix, c'est souvent plus coûteux qu'un non-choix. Alors ces choix-là, ils le font, ils ont toujours un objectif. Alors, où ils ont l'objectif pour leur enfant, l'objectif, il est souvent l'enjeu pour l'enfant, de développer, par exemple, l'ouverture au monde, la capacité de réflexion. Voilà, le projet qu'ils ont pour leur enfant, ça peut être celui-là. Et ils choisissent une école parce qu'ils savent que cette école-là va leur offrir ça, va offrir ça à leur enfant. Ou bien, il y a certains parents, et ça peut-être qu'on ne voit pas trop encore dans notre coin, mais des parents qui font le choix vraiment pour... Il y a des gens qui mettent leur enfant dans un tel collège, parce que tel collège conduira à telle école prépa, et telle école prépa pourra leur avoir une telle école d'ingénieur. Bon, le parcours, il est défini pour certains depuis que leur gamin est né, quoi. Donc c'est ça et comme ça. Ce sont des gens qui sont souvent des cadres sup, des gens qui sont dans. Pour eux, l'école, c'est un palier économique pour plus tard. Voilà, c'est des. Donc complètement différent des autres parents. Et il y a d'autres parents qui sont plutôt pour l'enrichissement personnel. Ils vont plutôt parler du bien-être de l'enfant, du bien-être psychologique. Donc pour eux, une école, il faut qu'elle accueille bien leur enfant. Qu'elles puissent les écouter, qu'elles respectent leur rythme de vie. Vous voyez un petit peu les trois sortes de parents qu'on peut avoir. Et peut-être que d'ailleurs, à l'Ikastola, on commence à avoir des parents qui sont un peu des différents, avec des enjeux différents. Ce que dit une autre des chercheuses sur laquelle je me suis appuyée, elle dit que choisir son école participe d'une construction identitaire. Alors ça, c'est l'inverse. Et c'est drôlement fort, je crois, dans le cas de l'Ikastola, on verra ça après pourquoi. C'est-à-dire, on pense que l'identité contribue au choix d'école, mais l'inverse aussi est vrai. C'est-à-dire que l'école contribue à construire l'identité des parents. Et je pense que des parents d'élèves, par exemple, de l'Ikastola, très éloignés de la culture basque, qui arrivent à 2 ans à l'Ikastola en ne connaissant rien, je pense qu'on les reprend en CM2, à la fin du parcours primaire de leur enfant. Quelque part, ils ne sont plus tout à fait les mêmes dans leur rapport à la culture. Parce qu'ils se sont construits une connaissance en lien avec les autres parents, en lien avec le programme scolaire de l'Ikastola, en lien avec tout ce que leur enfant leur apporte de l'école à la maison. Voilà. Donc ça, entre tous ces pôles identité, stratégie, culture, les gens, ils vont ou viennent. Ils ont fait le choix plus ou moins pour l'un de ces concepts. Alors moi, ma méthode de travail, vous savez, il y a eu un questionnaire que j'ai pu envoyer à toutes les familles du primaire. Alors j'ai choisi le primaire parce que là, c'est à ce moment-là que le choix s'est fait. Vous savez que l'Ikastola, on ne peut pas y arriver en collège, puisqu'il faut qu'il y ait quand même un cursus, que les enfants soient parfaitement bilingues pour arriver, et bascophones pour arriver au collège. Donc j'ai choisi ça. Donc l'enquête a été envoyée dans toutes les familles du primaire par chez HK. Par ailleurs, chez HK ne m'a fait aucune pression, c'est-à-dire qu'ils ont assuré ce lien et après, ils m'ont fait une entière confiance et j'ai fait mon travail vraiment tout à fait de manière autonome. Alors, ce questionnaire, on l'a fait bilingue. Alors, j'ai été aidée en ça parce que je n'aurais pas pu toute seule le faire. Il y a eu donc 1267 familles et j'ai eu 610 réponses. Ce qui fait, pour une enquête statistique, c'est un taux de réponse très important, hein, puisqu'on est plutôt sur, quand on fait des stats normales, quand on a 20%, on est ravi, quoi. Donc 48%, c'était quelque chose de tout à fait... Bon, on peut contredire les statistiques, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans le cadre d'une enquête statistique, les résultats sont plutôt... Enfin, vont être fiables. Le traitement des données, moi, je me suis dotée d'outils, de logiciels, à la fois... pour analyser toutes les questions ouvertes, qui étaient donc du traitement des gens qui écrivaient, et ils ont écrit énormément, donc j'ai eu des pages et des pages de réponses, et ça, il y a des logiciels pour analyser les contenus, c'est-à-dire qu'on étudie combien de fois le mot a été dit, le mot immersif, combien de fois les gens l'ont utilisé, certains mots, voilà. Tout ça, c'est des logiciels qui le font, Et il y a ensuite un autre logiciel qui m'a aidé à créer la typologie des parents. Ça, je reviendrai plus tard. Je dois préciser que j'ai été aidée en ça par Guyenne Gamio-Chipi, que je connais un peu, et qui est statisticien. Donc, c'est une chance quand même d'avoir un fils qui fait des statistiques. Bon, voilà. Alors, donc l'ICAJ TOLA, voilà le pourcentage. Maintenant, on part sur les pourcentages de réponses. Alors moi, ce pourcentage, il correspond à celui effectivement de la répartition des élèves sur le territoire. Donc il y en a, vous voyez, 8% de Soul, 17% de Basse-Navarre, 43% de Côte-Basque et 33% du Labour. Donc on voit que la partie la plus importante, évidemment, des effectifs aussi, est en Côte-Basque. Et d'ailleurs, si je rejoins chez HK dit bien que la population se trouve là, et dans les années à venir, se trouvera aussi, malheureusement, beaucoup là. Et donc, le gros effort, si les Cachetola veut continuer sa politique d'expansion, il doit se situer là, aussi. Il ne faut pas négliger la Soule, mais... Voilà. Voilà. Une autre question qui était posée, qui me semble intéressante, c'est... on voit que 91% des familles ont scolarisé leur enfant à l'ICAJ-TOLA, l'ensemble de leur enfant. Il y en a 9 qui n'ont pas scolarisé ses enfants à l'ICAJ-TOLA, mais sachant que ça se fait toujours dans le sens inverse, c'est-à-dire qu'ils ont été ailleurs avant, ou ils ont mis leur aîné ailleurs, et le second et le troisième là. Voilà. En général, c'est presque toujours dans ce cas-là. Donc, ce qui prouve aussi un certain degré de satisfaction. Donc, 91%, et ça, vous allez voir, ça va rejoindre le fait que beaucoup de gens ont fait ce choix depuis longtemps. C'est rarement un choix récent. Voilà. Donc ça, la description de l'échantillon. Alors, dans l'échantillon... Ah, je ne vous ai pas dit quelque chose. Par rapport au bilingue basque-français, sur le questionnaire, 416 ont répondu en français et 194 en basque. Voilà. Ça peut être intéressant. Par contre... 416 femmes ont répondu, 194 hommes. Alors je vois que même en Pays Basque, l'éducation, c'est encore l'affaire des hommes. Des femmes, pardon. Là, c'est un lapsus, c'est peut-être ce que... Faudrait que ça change quand même. Voilà. Bon, donc on est encore dans des... Donc ce sont plutôt les femmes qui ont répondu. Ils sont pour 88% en couple... Et ils ont en moyenne 2,2%, il n'y a pas des deux, mais des moitiés, mais bon, c'est comme ça, enfants. Donc, on va dire qu'il y a moins de divorces que dans l'ensemble de la population. Eh oui. Et un petit peu plus d'enfants que sur la moyenne nationale française. Voilà. Voilà, ce sont des données que vous pouvez analyser, peut-être, je ne sais pas. Ensuite, par rapport aux classes sociales. Par rapport aux classes sociales, ça répond un peu... aux hypothèses que j'avais du départ, c'est que le public de l'ICAJ TOLA est plutôt un public issu des classes moyennes et supérieures. Sachant que, par exemple, une petite anecdote amusante, pour l'INSEE, être paysan, c'est être classe sup. Voilà. Mais, bon, il n'y a que 4% de paysans dans mon échantillon, donc ce n'est pas ça qui joue énormément. Mais donc, classe sociale supérieure, il y a 36% d'employés et il n'y a que 2% de chômeurs. Pour vous dire, sur le département, il y a 6,9% de chômeurs. Ce qui fait déjà moins qu'au niveau national. Et donc, dans la population, très peu de chômeurs. Sur le département, par rapport aux classes sociales supérieures, on est à 23,5%. Donc, on est sur des classes sociales qui sont quand même vraiment beaucoup plus favorisées que dans l'ensemble de la population. Ce qui est encore plus fort, parce que je crois qu'on a quand même, enfin je crois, j'en suis sûre, on a plus de classes moyennes encore que de classes supérieures. On a beaucoup d'employés, il y a beaucoup d'employés. Mais par contre, au niveau compétences culturelles, c'est-à-dire niveau scolaire, le niveau scolaire, il y a 56% de diplômés du supérieur. C'est-à-dire des gens qui ont plus que bac plus 2. Et ça, c'est aussi un taux, mais alors là, remarquable. C'est-à-dire qu'on a 18,9% au niveau national. Donc, ce qui ne m'étonne pas, en fait, quand je vois les questions ouvertes, que je réponds, que j'analyse toutes ces pages, les gens, ils ont écrit des tonnes, quoi. Des gens qui n'ont pas peur d'écrire comme ça, ils sont en mesure d'écrire ou ils écrivent fréquemment, enfin, ils ne sont pas gênés par ça. Voilà. Ensuite, j'avais questionné aussi le niveau de basque. Alors ça, je vais vous le montrer. Par rapport au niveau de basque, alors il y a 55% de bilingues bascophones. Mais attention, on va voir ça un peu plus loin. Ce sera peut-être certainement à modérer. Regardez, alors il faut dire que là, quand on a des données statistiques, c'est ce que je n'ai pas interrogé les gens au téléphone pour connaître leur maîtrise de langue basque. C'est ce qu'ils disent qu'ils sont. Et c'est ce qu'ils disent qu'ils font. Donc c'est toujours sur ça qu'on travaille. On n'a pas évalué leur capacité linguistique. Donc 29% disent qu'ils ont une très bonne maîtrise de la langue basque. 26% parlent suffisamment pour tenir une conversation. La compréhension, c'est 21%. Je ne dis que quelques mots, ça c'est 21%. Et pas du tout le basque, c'est 3%. Mais ceux qui disent « je ne dis que quelques mots », il peut y avoir les parents qui lisent 2-3 devoirs de leur enfant, petit à petit s'habituent à un certain vocabulaire. Enfin voilà, on est aussi dans des parents qui sont certainement dans ce contexte, dans ce registre-là. Sur ces parents-là, ceux qui ne parlent pas le basque, je leur ai demandé combien étaient en train d'apprendre le basque. Et c'est là que je crois qu'on a un levier et qu'il faut réfléchir énormément. Ils sont que 26% à apprendre le basque. Tous les autres ne l'apprennent pas. Et l'argument qu'ils avancent, c'est souvent, très souvent, le manque de temps. L'énergie donnée pour apprendre qui est trop lourde. Et souvent, ils expriment un regret aussi. C'est-à-dire, je ne peux pas, mais je n'ai pas le temps, ce n'est pas possible. Voilà. Donc là, bon, on verra, il y a peut-être une dimension à avoir. Alors, si je reviens sur les classes sociales, je trouve ça, c'est un paradoxe qui je trouve ça intéressant. Et puis, on était quand même sur une langue qui était utilisée à un moment donné par les plus pauvres, par en quelque sorte les méprisés d'un pays. Et on se retrouve maintenant avec un bascule complet, c'est-à-dire cette langue déconsidérée, qui est en train d'être véhiculée maintenant par d'autres classes sociales. Et donc, on sait très souvent, malheureusement, que c'est toujours... Enfin, malheureusement, dans ce contexte-là, non, mais c'est toujours les classes sociales supérieures et moyennes qui réussissent à répandre leur manière de voir. Hein, c'est souvent comme ça. Voilà. Donc, l'apprentissage de la langue, je vous avais dit 74% qui n'apprennent pas le basque. Sur les pratiques culturelles, ça c'était la question. On pouvait répondre à plusieurs propositions par oui ou par non. Vous avez participé à des spectacles, des danses, enfin toutes les pratiques culturelles. Dans l'hypothèse, j'avais quel était le rapport entre le fait d'être là et le fait d'avoir participé ou de connaître certaines pratiques culturelles. Ce qu'on remarque, c'est que tous disent avoir plus ou moins une pratique avec la culture basque. 98%, mais comment ne pas en avoir quand on vit ici? On va aux fêtes de Bayonne, on entend 2-3 chants, on va... Enfin voilà, je crois que maintenant, c'est difficile de dire non à cette question-là. Des acteurs de culture. Alors ce qui est très important, c'est que je vois que dans certains parents, certains ont été des acteurs, c'est-à-dire ils ont participé en tant qu'acteurs à un spectacle, et là ils ne sont pas spectateurs. Et ça c'est une différence très forte. Parce qu'acteur, quand on est déjà acteur, on pose déjà des choix, on fait déjà quelque chose. On est spectateur, on est beaucoup plus passif et on n'est pas dans la même attitude, par rapport à, ni le même engagement par rapport à ce qu'on fait. Une troupe de danseurs, 32%. Bon, la totalité des chiffres, bon, c'est CHK qui les aura. Moi, je ne vais pas vous saouler avec tout ça maintenant. Par contre, quelque chose qui est très discriminant, c'est celui-là. C'est la pratique des médias en langue basque. Et là, on voit que certains parents, qu'on retrouvera très nettement dans une typologie de parents, ont une pratique et une pratique plus exigeante. Lire la presse en basque, par exemple. Aller sur ETB, c'est déjà avoir une excellente maîtrise de la langue. C'est déjà faire des choix, même en termes culturels, qui sont très marqués. Et donc, ces choix-là, on va retrouver, quand je croise cette variable-là avec d'autres, on va retrouver ça avec des objets, des enjeux, des objectifs très précis, par exemple. Par rapport au fait d'être à Bersalé ou d'être engagé pour le territoire, 61% de parents le disent que oui. Alors, moi, la définition d'à Bersalé, je ne l'avais pas donnée dans mon questionnaire. C'est chacun qui voyait s'y cochait, s'il s'y mettait ou pas. Ensuite, dans mon travail de mémoire, bien sûr que je l'ai un peu défini. Voilà. On voit que la radio, 76% des parents disent qu'ils écoutent la radio. Hein ? Ça, c'est peut-être certainement plus facile que lire, par exemple. Ça s'engage moins. Quand je dis que le choix de l'Ikastola est incarné pour 86% des individus, c'est qu'il y en a très peu donc, qui disent qu'ils ont fait un choix récent, un choix qui serait un peu plus lié au hasard. Ce sont des gens qui savent depuis longtemps que leurs enfants seront là. Hein ? Voilà, c'est un choix qui est construit de longue date. Alors, la question qui était intéressante et aussi pour chez HK, je pense, c'est comment j'ai connu l'Ikastola ? Beaucoup invoquent le réseau familial. C'est ce qu'on retrouve aussi dans d'autres écoles, d'ailleurs, et dans d'autres choix culturels qu'on fait. Le réseau familial, le réseau d'amis. Mais on commence à voir poindre un petit peu la publicité et les médias. Chez certains parents, effectivement, non bascophones, mais pour 14% des parents, quand même, la publicité et les médias ont contribué à la connaissance de l'Ikastola. Donc, ce n'est pas négligeable. Peut-être dans une population qui se renouvelle, il faut encore considérer ça. Voilà. Mais en tout cas, le fait que ce soit incarné, ça prouve bien que ça fait partie d'une identité globale. Voilà. Dans les motivations pour inscrire l'enfant à l'Ikastola, on a un consensus, quelque chose qui vient au-dessus de tout, et c'est presque normal puisqu'on est là, vous me direz. Mais pour qui parle le basque, on est pratiquement à 100%. Donc, en fait, ce projet-là, malgré les idées qu'on a sur certaines familles, il est encore le plus fort. La connaissance de la culture vient de suite après, 99%. Et je suis basque, donc l'affirmation de l'identité en disant « je suis basque, je veux transmettre la langue », 84%. Il faut lutter pour la survie. Là, dans cette phrase-là, on est davantage dans des phrases qui correspondraient à des gens, à des militants, qui sont là pour un acte global de militantisme. Et il y en a encore, il y en a 92%. Voilà. Parler plusieurs langues dès le plus jeune âge favorise tous les apprentissages. Là, on est sur le bilinguisme qui fait des émules et qui... ça reste aussi fort. Donc les gens pouvaient répondre à plusieurs propositions. C'est vrai que les gens savent que c'est un atout pour leur enfant. Donc même s'ils sont des militants, ils savent que c'est un atout pour leur enfant. Et donc ça... Ça fait partie, ça, c'est à considérer. Par rapport à la pédagogie, 92%. Alors après, ce qui est amusant, c'est que dans les questions ouvertes, la pédagogie, les parents, ils ne savent pas trop la définir. Ils disent pédagogie, mais ce qu'ils mettent derrière comme mot, ça reste toujours comme quelque chose de très vague. Et on comprend aussi, c'est peut-être du langage plus de professionnel, je ne sais pas. Mais c'est difficile pour les parents de préciser ça. L'atout pour l'avenir, 90%. Et si on continue, là c'est un peu plus petit, excusez-moi, il y en a plus. Pour la qualité des relations avec les enseignants, 86%. Donc les gens semblent satisfaits de la relation qu'ils ont avec les enseignants. Alors l'engagement pour le territoire, 72%. On commence à baisser là un peu. C'est-à-dire qu'on a des gens qui sont moins... Il y a certainement une proportion de gens qui en tout cas ont dit non. Donc quand on dit non, clairement il fallait cocher oui ou non. On rejette l'idée. Hein. Donc là, il y en a quelques-uns qui commencent à rejeter cette idée-là. La qualité de l'ambiance dans l'établissement scolaire, 78%. Être un parent actif, 73%. La qualité de l'accueil des enfants, cantine et garderie, 75%. Une manière de lutter contre la mondialisation. Là, on se disait, schématiquement, on pouvait se dire, on va retrouver quelques bobos qui veulent lutter contre la mondialisation. Pas 62%. C'est un choix qui est, on va dire, moins fort. Une école où on se retrouve entre basques, 32%. Alors, je reviendrai sur cette variable-là. Les autres parents sont des amis, 29%. Et c'est l'école la plus proche de domicile, 8%. On voit bien que... Là, il y a un rejet total. Ça vous fait rire. Mais en même temps, pour... Pour 80%, ou je veux dire pour 60%, enfin, je sais pas, pour une grande partie de la population, même en Pays Basque, choisir l'école, c'est tellement pas une question qu'ils mettent leur enfant dans la première école qui est contre leur appartement, parce qu'ils ont soit pas de voiture, soit pas la possibilité d'y aller, etc. Donc ça, c'est tout à fait. Donc là, par contre, on est dans, effectivement, beaucoup de parents d'élèves de l'ICHSOLA là peuvent faire des kilomètres, s'organisent, ont lutté pour obtenir le bus, etc., pour que leur enfant soit dans l'école de leur choix. Voilà. Mais c'est vrai que c'est. Alors, quand je parle d'une école où on se retrouve entre Basques, ça pourrait être ce qu'on appelle, on dit des fois ça, une variable indicible. Un peu comme quelque chose qu'on n'ose pas dire. Vous comprenez? Parce que on est là, mais c'est drôlement intéressant, mais en même temps, ça pourrait ressembler à de l'entre-soi, mais presque sectaire, quoi, quand on dit ça. Donc il y a des parents qui rejettent ça, mais il y en a quand même, je me dis, je croyais que personne allait le mettre, il y en a quand même 32% qui disent que oui. Voilà. La maturité du choix, je vous en ai parlé. Les motivations. Alors, les motivations, on est sur. Je crois que ce qui ressort le plus, c'est l'identité et la culture. Hein, donc, c'est un peu la synthèse de ce que je vous ai dit. En deuxième moment, on a les stratégies. Dans les stratégies scolaires, ce qui ressort, c'est davantage le bilinguisme, le développement de l'enfant et la pédagogie. Un peu moins l'atout pour l'avenir. Voilà. Après le reste, je crois que je vous en ai parlé. L'implication des parents. Alors moi, j'ai entendu un petit peu, j'entendais autour de moi des gens dire, les gens s'impliquent moins, ils sont un peu plus consommateurs d'école. Ce qu'ils en disent, ils disent qu'ils s'impliquent. Donc il y en a 80%, 87% qui s'impliquent et 13% qui disent que non, clairement. Ils sont là, pas pour ça, ils ne s'impliquent pas. Donc déjà, c'est fort de dire qu'on ne s'implique pas dans une école où, dès le départ, on sait qu'il va falloir consacrer des après-midi, des soirées. Donc il y en a 13% qui ont rejeté déjà cette idée-là. Peut-être ça, c'est énorme. Mais en même temps, je crois que la participation, elle reste encore très vive. Et en sachant que les effectifs ont été multipliés, que certainement le besoin en termes de matériel, d'argent et tout ça, il s'est multiplié aussi, mais les gens qui s'impliquent, ils se multiplient aussi, certainement. Même si on a toujours l'impression que ce sont toujours les mêmes. Évidemment, si on allait dans les détails, celui qui a la commission Egoïtzak ou qui est délégué HHK, il est certainement autrement plus engagé, ou différemment, je dirais différemment, que celui qui est bénévole pour une fête. Ce n'est pas du même ordre. Mais en même temps, on n'est pas tous pareils, ni tous dans la même capacité, à la fois en termes de temps, en termes d'engagement, que voilà. Et puis il faut faire ensemble avec ceux qui sont aussi un peu différents. Alors l'évaluation. Pourquoi j'ai choisi de demander aux parents ce qu'ils pensaient des cachetots-là? Parce que l'évaluation, c'est une façon de justifier encore de pourquoi ils y restent. On y est allé, mais pourquoi on y est encore? Pourquoi on y reste? Donc pourquoi on y reste? On voit que la langue, enfin globalement, l'évaluation, elle est bonne. C'est-à-dire, les gens, ils sont satisfaits de leur école, puisque pratiquement tous les scores sont au-dessus de 7 ou 9. Alors là, le chercheur pourrait dire, tu fais une enquête sur les cachetots-là, donc on va te donner des bonnes choses, que tu renvoies une bonne image, parce qu'on est tous acteurs de notre école, et donc on ne veut surtout pas que tu dises deux, trois vacheries sur notre école, alors on te répond comme tu veux. Voilà. Mais quand même, ça joue, on va dire, pas sur une grande proportion. Donc globalement, les évaluations sont excellentes. En ce qui concerne l'apprentissage de la langue, le projet de l'ICHSOLA, le bilinguisme, c'est-à-dire aussi l'apprentissage quand même des deux langues, l'équilibre entre les deux langues, la qualité des enseignants, la pédagogie et l'ambiance de l'école. On est tout ça entre 9 et 8, donc de bons scores. On descend un petit peu quand on parle des bâtiments. Vous savez pourquoi, peut-être. Pourtant, il y en a qui s'évertuent à avoir des bâtiments de qualité. Sur le niveau scolaire global, l'apprentissage du français, l'accueil et le rôle des parents. Alors ça, c'est incroyable. Moi, je trouve intéressant. Les gens s'impliquent énormément et parfois, ils ont l'impression de dire qu'ils voudraient s'impliquer encore plus ou autrement, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose à creuser là, à réfléchir. D'autres éléments d'évaluation dans les questions ouvertes, c'est-à-dire ce que les gens ont écrit, quoi. Alors là, le grand plébiscite, il est pour la méthode immersive, qui n'était pas, elle n'apparaissait pas dans le questionnaire. Donc je ne l'ai à aucun moment suggéré. Mais moi, je savais que c'était ce qui faisait la différence énorme avec les autres écoles, mais je ne savais pas dans quelle mesure c'était un élément retenu par les parents. Donc, sur les questions ouvertes, il y a 244 fois le mot « immersif ». Elle est considérée comme plus efficace parce que les enfants avec cette méthode deviennent réellement bilingues, parce que la culture et l'environnement sont basques et en basque. Donc, les gens qui sont là, ils font ce choix-là pour l'efficacité aussi, l'efficacité de la méthode immersive. Ça, c'est assez important. Je crois que là, on a un élément. Ensuite, dans les questions ouvertes, vraiment, on sent que les parents, ils sont là énormément aussi, enfin, tous ces nouveaux parents, pour l'apprentissage et l'équilibre entre les deux langues. Voilà. Alors là, comment expliquer ça? Ça, c'est une typologie. Alors, c'est une construction abstraite. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous retrouver dans l'un ou l'autre de ces planètes, mais en fait, c'est un logiciel qui croise, par exemple, le fait que certains parents soient acteurs de culture basque et bascophone. Ça croise ensemble avec je veux que mon enfant... Je crois que c'est un atout pour l'avenir. Donc ça va croiser plusieurs choses. Ça va regrouper les individus qui se ressemblent en quelque sorte selon leur réponse au questionnaire. Et donc là, si vous voulez, on a au centre donc la langue basque avec deux axes. Un qui est les stratégies scolaires, ce que je vous ai là, le projet scolaire. Sur la droite, tout ce qui est motivation, identité et culture. Et on a les planètes, en fait, ça correspond au groupe d'individus, mais en fonction de leur effectif. Donc là, on va avoir, je vais vous expliquer un peu plus dans le détail, les identitaires stratèges. On va dire que c'est le groupe le plus fort. Ils sont 52, presque 53%. Eux, en général, sont des acteurs culturels. Ils sont dans le réseau d'amis, social, etc. Ils sont plutôt à Berthe Salée. Ils considèrent cependant, et ça c'était intéressant, étonnant, ils considèrent que le basque, ça peut être un atout pour l'avenir. C'est-à-dire que pour eux, c'est aussi un choix de stratégie scolaire. Ils sont là parce qu'ils ont toujours su qu'ils seraient là, parce qu'ils sont quelque part un peu aussi des militants, mais en même temps, ils ont un projet très fort pour leur enfant au niveau scolaire. Ils font une super évaluation des Kashtola, ce sont ceux qui font la meilleure évaluation. En fait, ils sont le groupe majeur et eux, quoi que coûte que coûte, ils seront là et en plus, ils défendront leur école, Coréa. Mais en même temps, ils ont un projet très fort pour leur enfant. Donc ça, ce n'est pas non plus à négliger sur le plan de la réussite scolaire, par exemple, ou des projets comme ça. Ce groupe, c'est un groupe d'influence, certainement, dans les Kashtola. C'est le noyau central en ce moment qui est en phase avec le projet de CHK. Et ensuite, on a en bas les pro-territoires. Alors, cela, stratégie scolaire, un rejet complet. Non, mais c'est 0% les compétences scolaires. Ce n'est pas leur problème, ils n'en parlent pas. Par contre, ils sont pratiquement tous à Berthe Salée. Je dirais que ce sont les pionniers, ceux du départ, un petit peu. C'est-à-dire ceux qui sont là. Et les Kashtola, c'est presque la leur. Et paradoxalement, c'est eux qui en font l'évaluation la plus dure. Ils sont très durs dans l'évaluation. C'est-à-dire que, par rapport à l'implication des parents, je pense qu'ils en souhaitent plus, ils la veulent autrement. La qualité de la langue, ils voudraient encore plus. Donc, je trouve ça aussi, c'est intéressant. Donc, ces parents-là, ces enfants, leurs enfants sont là par rapport au concept de territoire à transmettre à leurs enfants. Mais ça ne m'étonne pas que l'évaluation soit dure, parce que c'est leur école. On est toujours plus dur en interne pour nous-mêmes. Je ne sais pas comment... Ils n'ont pas justifié auprès d'autres que c'est bien. Ils y sont dedans, et forcément, ça fait partie d'eux, quoi. Donc, ils ont envie que ce soit comme ils veulent, quoi, selon leur projet, et que surtout qu'il y ait des choses qui aillent dans le sens, peut-être, qui... Voilà. Et c'est une base sur laquelle il faut aussi certainement compter, parce qu'elle est, je pense, aussi influente. Voilà. Mais alors, ce que je vous disais, ils ont complètement rejeté l'idée des capacités scolaires, de la capacité à apprendre... L'idée d'entre-soi est plus fort aussi, d'être entre-basques, par exemple. Ça a été dit un peu plus fort. Ils sont beaucoup plus bascophones que les autres, bien sûr, et bascophones de langue maternelle. Voilà. Ensuite, on a les pro-bilinguismes, là, ceux-là. Voilà. Eux, ils sont 26%. Ils sont beaucoup plus nombreux à ne pas parler le basque, du tout le basque. Ils sont 31% à ne pas parler du tout le basque. Vous vous rappelez, il n'y en avait que 4% de la population totale. Ils ne sont pas des locuteurs. Même ceux qui parlent un peu le basque ne sont pas des locuteurs de première langue. Et ils l'ont appris après. Ce sont des parents soucieux du bien-être de leur enfant. Ils sont là quand même à 100% pour que leur enfant parle le basque. Et ils font une bonne évaluation des cachetolas. En gros, l'école, l'accueil, tout ça leur convient. Ils sont là pour ça. Et certainement, leur présence à l'école est impulsée par tout le contexte dont on a parlé, d'institutionnalisation de l'Ikastola, des vertus du bilinguisme et tout ça. Et le fait que, par exemple, je crois que ce que font certaines mairies, comme à Biarritz par exemple, en valorisant vraiment l'enseignement bilingue, en donnant une place, en faisant des, il y a des plaquettes par exemple qui ont été faites pour présenter les différents cursus bilingues offerts sur la ville, ça attire un peu ces gens-là. Et ensuite, il y a les atypiques. Alors, les atypiques, c'est peut-être une construction un peu, je dirais, intellectuelle. Bon, j'avais demandé 4 classes. Donc, ceux-là, c'est un tout petit groupe, un faible effectif. Eux, ils ont complètement rejeté l'idée d'Abertzale, par contre. Il y en a 0%. Ils ont connu aussi l'Ikastola par les médias, globalement. Ce sont des gens plutôt nouveaux. Et eux, ils pensent qu'un cursus à l'Ikastola peut favoriser l'obtention d'un travail. Ce sont quand même des stratèges, des gens qui sont là pour ce projet-là. Voilà. Voilà. Ensuite, si on voit l'évaluation, c'est intéressant de voir comment chacun des groupes a répondu par rapport à l'évaluation. Ça s'appelle un radar. Alors, il y a les différentes questions. Et si, voyons si je fais ça. Là, ici, on voit, par exemple, regardez, quand je vous disais que c'était les territoires les plus durs, ils se situent là, au milieu. Et ils sont plus durs sur les bâtiments, ils sont plus durs sur la pédagogie, ils sont plus durs sur le rôle des parents. Voilà, ce sont eux les plus durs, alors qu'autour, on a le noyau. Et voyez l'apprentissage du basque, le pic, c'est en fait, en gros, les gens sont satisfaits de ça. Ils sont là pour ça, quoi. Presque tous. Voilà. Voilà. En conclusion, je dirais que le public que j'ai étudié est constitué de parents d'élèves qui ont tous choisi l'école, que ces gens, quand même, partagent tous des valeurs et des représentations qui font de leur motivation à être là, et que la volonté que leur enfant parle basque les anime tous. Et je crois que ce prestige retrouvé, d'une certaine manière, hein, il faut voir comment ça passe dans les actes, de la langue dominée, ce prestige de la langue, il s'est emparé, les classes moyennes s'en sont emparées, et quelque part sont en train de le transmettre, je crois, hein, de le répandre. Cependant, je sais que la multiplication des effectifs amène avec elle des confrontations, de motivations, d'enjeux, par exemple autour des choix pédagogiques, dans la notion des territoires. Il y a certainement des divergences là. Mais je crois que l'Ikastola aussi participe quelque part de créer le groupe et de construire aussi un petit peu l'identité des parents. Alors, voilà, je crois que peut-être que la présence de plus d'enfants francophones rend l'immersion difficile et que la grande réflexion, elle sera amenée sur ça. Comment garder la même qualité d'immersion? Je crois que c'est fondamental puisque c'est là aussi ce qu'attendent les parents, hein, la preuve. Et que, en tout cas, cette motivation, elle est forte et il faut que certainement l'école y réponde. Voilà, et je crois que j'ai pas grand-chose d'autre à ajouter, c'est à moins que vous ayez des questions à me poser, mais sinon j'ai terminé. Voilà.